Apprivoiser la science de la persuasion. Pour un dirigeant, impossible de réussir sans maîtriser l'art de la persuasion. Mais derrière ce talent se cache aussi une science. Un article de Robert Cialdini, professeur émérite de psychologie et marketing à l'Université d'État d'Arizona et président du cabinet de conseil Influence at Work. Quelques chanceux l'ont. La majorité d'entre nous en sont dépourvus. Une poignée de doués de naissance savent dès le début comment captiver leur public, faire pencher les indécis du bon côté de la balance et rallier l'opposition à leur camp. Regarder ces maîtres de la persuasion exercer leur magie est tout à la fois impressionnant et frustrant. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement la facilité avec laquelle ils utilisent leur charisme et leur éloquence pour convaincre les autres de faire ce qu'ils veulent, c'est aussi l'empressement avec lequel ceux-ci s'exécutent, comme si on leur avait fait une faveur qu'il leur tardait de rendre. Ce qui est frustrant, c'est que les individus nés avec ce don sont bien souvent tout aussi incapables d'expliquer d'où il leur vient que de le transmettre. Leur manière d'interagir avec les autres est un art, et en règle générale, les artistes sont bien meilleurs praticiens que pédagogues. La plupart ne peuvent guère aider ceux d'entre nous qui ne possèdent rien de plus que leur quota ordinaire de charisme et d'éloquence, mais doivent néanmoins se débrouiller pour répondre au défi fondamental qui se pose à tout dirigeant d'entreprise, faire avancer les choses par l'intermédiaire des autres. Une gageure douloureusement familière pour les managers qui doivent chaque jour trouver un moyen de motiver et de mener des employés très individualistes. Jouer la carte du « parce que c'est moi le chef » n'est plus possible. Même si cela n'était pas dégradant ni démoralisant pour toutes les personnes concernées, cela n'a plus lieu d'être dans un monde où les équipes transverses, les joint ventures et les partenariats entre entreprises ont brouillé les lignes de l'autorité. Dans un tel environnement, la capacité à persuader autrui est bien plus à même d'influer sur les comportements que ne le sont les structures traditionnelles de pouvoir. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Alors que la faculté de persuader ses semblables est sans doute plus utile que jamais, comment les dirigeants peuvent-ils acquérir cette compétence si ces plus talentueux praticiens se montrent incapables de transmettre leur savoir en se référant à la science? Depuis les années 1950, les spécialistes du comportement ont mené des expériences qui ont mis en lumière la façon dont certaines interactions conduisent les individus à obtempérer, à se soumettre ou à changer. Les études montrent que les ressorts de la persuasion font appel à un nombre limité de pulsions et de besoins humains profondément ancrés, et ce de manière prévisible. En d'autres termes, la persuasion est régie par un certain nombre de principes de base qui peuvent être enseignés, appris et appliqués. Et lorsqu'ils les maîtrisent, les dirigeants peuvent parvenir à des accords et obtenir consensus et concessions avec une rigueur toute scientifique. Ce sont ces six principes fondamentaux de la persuasion que je vais décrire, assortis de quelques conseils sur la manière dont les dirigeants peuvent les appliquer au sein de leur organisation. L'idée en bref. La question. Alors que la faculté de persuader ses semblables est sans doute plus utile que jamais, comment les dirigeants peuvent-ils acquérir ces compétences si ces plus talentueux praticiens se montrent incapables de transmettre leur savoir? La réponse. Depuis les années 1950, les spécialistes du comportement ont mené des expériences qui ont mis en lumière la façon dont certaines interactions conduisent les individus à obtempérer, à se soumettre ou à changer. En pratique, il existe six principes fondamentaux de la persuasion que les managers peuvent mettre en œuvre. Le principe de l'appréciation. Les gens apprécient ceux qui les apprécient. Application. Découvrez vos ressemblances et complimentez avec sincérité. Le cas phénoménal de vente au détail connu sous le nom de réunion Tupperware est une flagrante illustration de ce principe en action. La réunion de démonstration des produits se fait au domicile d'une hôtesse, car il s'agit presque toujours d'une femme, qui convie chez elle ses amis, ses voisines et sa famille. L'affection que les invités éprouvent pour elle les prédispose à lui acheter des produits, une dynamique confirmée par une étude menée en 1990 sur les décisions d'achat prises lors de ces réunions. Dans un article paru dans le Journal of Consumer Research, les chercheurs Jonathan Frenzen et Harry Davis ont ainsi écrit que l'affection des invités pour leur hôtesse avait deux fois plus pesé dans leur décision d'achat que l'intérêt porté au produit. Quand les invités à une réunion Tupperware achètent quelque chose, ils ne le font pas que pour se faire plaisir, ils le font aussi pour faire plaisir à leur hôtesse. Ce constat s'applique également de manière générale aux entreprises. Si vous voulez influencer les gens, faites-vous des amis. Comment ? Les études ont mis en évidence plusieurs facteurs qui accroissent l'appréciation, dont deux qui ont un poids prépondérant, la ressemblance et l'éloge. La ressemblance attire littéralement les gens les uns vers les autres. Au cours d'une expérience relatée dans un article publié en 1968 dans le Journal of Personality, les participants se sont physiquement rapprochés après avoir appris qu'ils partageaient les mêmes valeurs et opinions politiques. Dans un autre article paru dans American Behavioral Scientist en 1963, le chercheur Barton Evans a montré, à partir de données démographiques collectées auprès de compagnies d'assurance, que les prospects étaient plus susceptibles de souscrire une police d'assurance quand celle-ci leur était proposée par un vendeur d'âge similaire au leur ou de même religion, de même bord politique, ou encore partageant les mêmes habitudes de fumeur. Les managers peuvent se servir des ressemblances pour tisser des liens avec une nouvelle recrue, le chef d'un autre département ou même un nouveau supérieur hiérarchique. Des conversations informelles au cours de la journée de travail donnent ainsi l'occasion de découvrir, ne serait-ce qu'une source de distraction commune, que ce soit pratiquer un hobby, soutenir une équipe de basket ou suivre une série télévisée culte. L'important est de rapidement créer un lien, car cela permet d'établir une relation de confiance et de tabler sur la bienveillance présumée qui présidera à toute rencontre subséquente. Il est beaucoup plus aisé d'obtenir du soutien pour un nouveau projet quand les gens que vous essayez de persuader vous sont déjà acquis. Quant à l'éloge, l'autre générateur fiable d'affection, il permet tout à la fois de charmer et de désarmer son interlocuteur. Parfois, il n'a même pas besoin d'être mérité. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord, écrivant pour le Journal of Experimental Social Psychology, ont ainsi montré qu'il suffisait qu'un individu flatte un homme sans retenue, y compris par des commentaires mensongers, pour que celui-ci éprouve la plus grande considération envers le flagorneur. Et dans leur ouvrage Interpersonal Attraction, publié en 1978, Ellen Berscheid et Elaine Hatfield-Walster font état de données expérimentales indiquant que des remarques positives sur le caractère, l'attitude ou la performance d'un individu suscitent immanquablement une appréciation de la personne qui les émet, ainsi que l'envie de lui faire plaisir. En plus de cultiver des relations fructueuses, les managers habiles peuvent également faire usage de compliments pour réparer celles qui sont endommagées ou improductives. Imaginez que vous soyez le dirigeant d'une division de taille importante au sein de votre organisation. Votre travail vous amène à être régulièrement en contact avec un de vos alter-ego, appelons-le Dan, pour qui vous en êtes arrivé à éprouver de l'antipathie. Quoi que vous fassiez pour lui, ce n'est jamais assez. Pire, il semble croire que vous ne faites pas vraiment d'efforts pour lui.